Bonjour à tous. Donc, nous continuons notre étude de l'Épître aux Romains. On arrive, donc on est. Donc Yann a fait la semaine dernière le début du chapitre 3. Et nous continuons donc avec la suite à partir du verset 21. Donc c'est très bien, c'est la Bible du Semeur, c'est la traduction que je vais aussi utiliser. Avant de commencer la lecture, je voudrais juste dire donc Yann a expliqué la semaine dernière, en fait, donc il a abordé la partie difficile, celle qui parle du péché, universel. Dans le passage qu'on va étudier ce matin, on va aborder des vérités qui sont des doctrines qui sont vraiment au cœur de la pensée chrétienne, hein, de la doctrine chrétienne. On va parler encore du péché, mais on va parler aussi de justice. On va parler de rédemption. On va parler d'expiation. Donc, qui sont des doctrines du salut particulièrement importantes à comprendre et à vivre. Alors, je vais commencer la lecture à partir du verset 21. Donc, ce verset commence avec cette expression « mais maintenant ». Donc je le mets en avant, en fait, hein, parce que donc c'est deux mots qui permettent de montrer qu'une page se tourne, qu'une nouvelle pensée, une nouvelle façon d'appréhender cette réalité qui est la nôtre, eh bien que voilà cette nouvelle façon de penser va nous être maintenant exposée. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour tous ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Reste-t-il encore une raison de se vanter ? Non, cela est exclu. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Voilà donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs ? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs en raison de leur foi. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi ? Loin de là, nous confirmons la loi. Justifié par la foi, sans la loi. D'accord ? C'est le contenu de ce texte. Alors en fait, Paul reprend quelque chose qu'il a déjà exposé, hein, au chapitre 1. Donc il reprend cette idée de la justification par la foi. Donc ce régime de la foi opposé au régime de la loi. Donc on a déjà étudié ces idées-là. Donc je ne vais pas forcément insister là-dessus, mais montrer en fait que cette justification eh bien, entoure des notions. Donc voilà, la notion de qu'est-ce que c'est que le péché, qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette rédemption. Alors dans cette traduction, le mot rédemption, alors qui est un mot grec, évidemment, que je ne vais pas essayer de prononcer, mais qu'on traduit par rédemption, donc ici ça a été traduit par délivrance, donc on va voir ce que ça peut recouvrir. Donc cette justification par la foi, eh bien, est accomplie via l'expiation de Christ. Alors là aussi, on va essayer de regarder un petit peu ce que ces mots recouvrent, parce que quand on parle de la justice de Dieu, on a besoin de comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est notre relation à Dieu qui en dépend. Quand on parle du péché, on a besoin de comprendre quelle réalité ça recouvre, quelles conséquences ça a dans nos vies. Donc on va essayer d'aborder évidemment brièvement, parce que ce sont des notions qui sont riches, mais en même temps, ce passage-là, bon, on le sait tous, hein, ce Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. C'est un verset qu'on a entendu à de nombreuses reprises parce qu'il est, il est fondamental de ce qu'il dit sur nous, sur qui nous sommes. Et il faut, c'est le moment en fait de se plonger dans le sens de ces mots-là, parce qu'on on en parle souvent, on n'a pas forcément toujours l'occasion de se demander mais qu'est-ce que ça recouvre exactement ces notions-là. Donc c'est aussi pour ça qu'on étudie Romains. Alors évidemment c'est de la théologie, ça nous oblige à réfléchir. On se rend compte d'ailleurs aussi que eh bien quand on creuse la signification de ces notions, on se rend compte qu'elles ont été comprises de façon différente au cours du temps, différemment dans les églises, entre les théologiens. Ce sont des notions qui ne sont pas toujours faciles à aborder, parce qu'elles s'approchent de la réalité de Dieu. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas saisir complètement. Et il faut arriver à savoir où s'arrêter, ou jusqu'où chercher, et puis à un moment donné, dire peut-être, eh bien, cette réalité-là me dépasse et je ne peux que l'accepter. Alors d'abord, cette affirmation, tous les hommes ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. On a déjà eu l'occasion, souvent évidemment, de parler de ce que c'était que le péché. Et je trouve que cette formulation-là nous fait entrer dans ce que c'est vraiment. On a déjà eu l'occasion de dire que, alors le passage précédent, au verset 20, Paul disait, en effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. La loi nous montre ce que c'est finalement que ce péché. On a souvent tendance à associer le péché et le mal. D'accord ? Ça a souvent été d'ailleurs présenté de cette façon-là. En fait le péché, et je le redis, on a souvent eu l'occasion de le dire, et même je pense Yann la semaine dernière, le péché c'est le fait de prendre la place de Dieu. Fondamentalement, c'est ça. C'est l'homme qui prend la place de Dieu dans, dans, dans sa, voilà, il expulse Dieu finalement de la relation. Et il prend sa place. Et c'est ce qu'on on le voit dans ce verset-là, quand Paul nous dit, voilà, il est privé de la glorieuse présence de Dieu. C'est exactement ça. Dans la relation avec Dieu, quand l'homme prend la place de Dieu, eh bien, la présence de Dieu disparaît. Et c'est exactement ça qui se passe en Éden. Quand Dieu est proche d'Adam et Ève, et le péché, quand l'homme décide d'acquérir cette connaissance du bien et du mal, au lieu de la recevoir de Dieu, eh bien, il met, finalement, Dieu le met hors d'Éden, mais au bout du compte, c'est l'homme qui a mis Dieu hors de son cœur, et qui a mis à la place de Dieu, qui s'est mis lui-même, et il devient il se pense autosuffisant, celui qui va devenir sa propre référence. Au lieu de trouver sa référence dans la relation à Dieu, eh bien, il décide qu'il devient lui-même sa propre référence, lui-même capable de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, et de là, tout le mal va découler. L'image que je trouve parlante, c'est la façon dont les hommes ont compris la position de la Terre dans l'univers. Pendant très longtemps, on le sait bien, donc les hommes ont cru que le monde, l'univers, tournait autour de la Terre. Et c'est ce que nous vivons quand nous sommes sans Dieu. Nous pensons que tout tourne autour de nous, que nous sommes ceux qui sommes suffisants. Tout est référencé par rapport à nous. Or, nous le savons, la Terre, le monde ne tourne pas, enfin, l'univers ne tourne pas autour de la Terre. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et si nous pensons pouvoir, j'en sais rien, si on espérait pouvoir aller sur la Lune en pensant que l'univers tourne autour de la Terre, on aurait vraiment du mal. Pour pouvoir explorer et connaître, il faut reconnaître la réalité, ce qui est vrai, c'est que c'est pas nous qui sommes le centre. Dans notre système solaire, le centre, c'est le Soleil, c'est tout. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que cette gloire de Dieu, cette présence glorieuse de Dieu, était la nôtre en Éden. Était la volonté de Dieu pour nous. Que sa présence et sa présence glorieuse. Hein, donc ça souligne la puissance de cette relation avec nous, de tout ce qu'elle impliquait pour nous. Cette présence glorieuse de Dieu était la nôtre et le péché nous en a privés. Alors quelle est la solution à ce problème du péché, à ce problème du fait que l'homme a perdu sa relation, a perdu cette proximité avec Dieu. La première solution que Dieu a proposée, eh bien, c'est la loi. La loi qui révèle qui est l'homme, qui révèle qui est Dieu, et qui propose à l'homme d'accomplir la distance qui sépare l'homme avec Dieu. Et dans ce mode de relation, eh bien, l'homme va essayer de se conformer, il va essayer d'obéir. Alors, en obéissant et en recherchant la présence de Dieu, il va retrouver il va redonner à Dieu sa place. Du moins, il va le faire en partie. Et c'est bon. Mais le texte nous montre que dans cette tentative de l'homme pour finalement monter vers Dieu, eh bien, la distance est trop grande, le chemin est trop long. Et Paul souligne combien cette démarche-là est vouée à l'échec. Et la loi, comme moyen de salut, est un échec. C'est une révélation que Dieu nous fait pour nous montrer que, décidément, non, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas combler la distance. Et justement, peut-être que ça nous montre aussi ce besoin de relation qu'on a avec Dieu, nous ne pouvons pas le générer par nous-mêmes. C'est forcément Dieu qui doit s'approcher de nous. Et ce régime de la foi, c'est exactement ça. C'est Dieu qui s'approche de nous, c'est Dieu qui vient donner ce que nous ne pouvons pas, ce que nous ne pouvons pas apporter. C'est lui qui franchit l'abîme qui nous sépare. Et cette foi en Jésus-Christ, d'accord, c'est pas n'importe quelle foi, hein, évidemment. Hein, il ne s'agit pas de penser la foi comme une espèce d'exercice spirituel. C'est la foi en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui donne, d'accord, le verset suivant met en avant la grâce et le don. Alors, d'accord, grâce et don, ce sont des synonymes, hein, cette gratuité. C'est Dieu qui fournit, qui pourvoit à tout ce qui est nécessaire à la relation. Et là aussi, quand nous prenons conscience de ça, nous redonnons effectivement à Dieu sa place. Sa place de celui qui est extérieur à nous, celui qui est effectivement le centre, la source, le créateur, celui autour duquel nous devons tourner. Parce que c'est lui qui est le centre, tout simplement. Dans le système solaire, d'accord, 99% de la masse est dans le Soleil. D'accord ? Si on parle en centre de gravité, en fait, le centre de gravité entre la Terre et le Soleil, en fait, c'est dans le Soleil. Vous voyez, pour voir la répartition du poids. Et dans notre relation à Dieu, c'est la même chose. C'est Dieu qui fournit, qui donne ce dont nous avons besoin. Et nous avons besoin de prendre conscience de ça, de réaliser combien c'est Dieu qui est la source de notre vie. Et nous avons besoin de ça pour restaurer finalement cette relation. Par la foi, nous prenons conscience que nous avons complètement besoin de lui. La loi pouvait nous donner l'illusion que nous pouvions apporter finalement apporter quelque chose à cette relation que nous pouvions combler une partie de la distance. Et on peut voir d'ailleurs que pour les Juifs, la relation à Dieu, bien sûr, était basée donc sur l'accomplissement de la loi. Mais donc les Juifs même avaient bien sûr conscience que leur effort était insuffisant. Et donc ils pensaient qu'ils comptaient finalement sur la miséricorde de Dieu, d'accord, pour combler ce qui manquait. D'accord, les musulmans pensent la même chose. Hein. Quand on discute avec un musulman, souvent ce qui revient, c'est que bien sûr, ils font ce que la loi, le Coran demande, et ils comptent sur la miséricorde de Dieu parce qu'ils ont bien conscience que ça va pas suffire. Donc cette idée que dans la balance de ce qui nous est demandé, on peut apporter et Dieu va combler ce qui manque. En fait, c'est pas comme ça. Nous n'avons rien à apporter. C'est Dieu qui donne tout. Et c'est très difficile, finalement, à accepter. Les juifs et les musulmans vont rejeter, finalement, cette idée-là de la totale dépendance à Dieu et du fait que nous soyons incapables d'apporter quelque chose à ce salut, que nous ne pouvons pas y participer. Que c'est illusion. Il faut arriver à renoncer à ça, à renoncer à notre illusion de pouvoir participer à notre propre salut, à cette restauration de la relation. faut accepter que Dieu fournisse tout cela. Donc cette idée voilà, du péché comme une mise à l'écart finalement, comme une mise à l'écart de Dieu, et le salut comme cette restauration de la relation. Donc ce salut, c'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. La délivrance, la rédemption. Quand on pense à délivrance, ce mot grec, ben, ça fait penser à la référence et la délivrance d'Égypte, la délivrance de l'esclavage, la sortie d'Égypte, la façon dont Dieu va prendre son peuple pour le libérer. Et effectivement, en Christ, nous sommes délivrés de cette séparation avec Dieu. En Christ, une nouvelle alliance est proposée, on en avait déjà parlé, cette alliance qui repose sur l'esprit plutôt que sur la lettre. Cette nouvelle alliance qui repose sur la foi que l'homme va manifester et sur la justice donnée par Dieu. Cette alliance est la définition finalement même de cette justice. Parce que c'est Dieu qui va décider dans sa souveraineté que l'alliance qu'il passe avec l'homme, cette foi en Christ, en son sacrifice, eh bien, le respect de cette alliance aboutit à la justice. Ça, c'est une première définition de la justice de Dieu, une justice donnée par Dieu à l'homme à travers cette nouvelle alliance. Donc la délivrance de la séparation. Dans ce mot de rédemption, on entend aussi le mot rachat. D'accord ? Parce que ce mot fait aussi référence au rachat de l'esclave. Ça a été un sujet de discussion entre les théologiens, parce que l'idée de rachat, eh bien, il y a l'idée du prix. Il y a un prix à payer. Alors, s'il y a un prix à payer, on se demande, qu'est-ce que le prix ? Là, le prix est assez clair, c'est la vie de Christ. C'est la vie même du Fils de Dieu donnée pour nous. Un prix ? Payé par qui ? Alors là aussi, payé par le Christ. C'est lui qui paye. Le Christ, Dieu lui-même. L'homme parfait qui donne sa vie. Payé à qui ? C'est là où on a du mal à éventuellement comprendre. Parce que, effectivement, à qui nous sommes rachetés ? Alors, les chrétiens ont un peu erré, parfois. Certains ont même pu penser à un moment donné qu'on était rachetés à Satan. Par exemple, ça a été une idée qui a été assez vite, je pense, exclue. Mais malgré tout, alors que évidemment c'est complètement faux. Satan a fait partie de la chute, mais à aucun moment Satan n'intervient dans le salut. Il est complètement extérieur à ça. Donc cette idée de rachat. Et alors, quand j'ai parlé de la définition du péché, de la relation à Dieu, c'est une idée qui est assez, j'ai envie de dire, on peut séparer là en fait les modernes et les anciens. Les modernes, effectivement, vont parler de cette restauration de la relation. Et je vais le dire comme ça, mais les anciens, eux, vont mettre en avant la colère de Dieu. Et ce texte nous parle de l'expiation, du sacrifice, d'accord? Parce que expiation, le mot qui est derrière, c'est propitiation, propitio, d'accord, qui fait référence au couvercle du coffre de l'Alliance sur lequel le sang des sacrifices était répandu. Donc l'idée derrière ça, c'est d'apaiser la colère par le sacrifice. Et effectivement, dans l'ancienne alliance, le sacrifice pour le péché, eh bien, ce sacrifice consistait à prendre un animal sans défaut, sans tache, qui représente donc la pureté, de l'identifier au péché de celui qui présente le sacrifice, et de donner la vie, le sang de cet animal, en substitution au péché de celui qui le présentait. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc l'idée que c'est la vie qui est le prix à payer pour apaiser la colère de Dieu sur le péché. Ce texte nous dit que ce sacrifice était une image, finalement, du sacrifice de Christ, le seul sacrifice qui ait une véritable valeur aux yeux de Dieu, qui puisse effectivement être équivalent au prix demandé. Et que ce sacrifice, finalement, ce sacrifice du Christ, eh bien, c'est le chemin par lequel tous les hommes, de tous les temps, de tous les lieux, doivent passer. C'est ce sacrifice qui apaise la colère de Dieu pour tous les hommes, quel que soit l'époque à laquelle ils ont vécu, quel que soit le lieu dans lequel ils ont vécu, les Juifs, les païens, tous les hommes passent par ce sacrifice-là, par ce prix payé à leur place. La justice de Dieu. Là, on voit que cette justice recouvre une autre réalité que celle dont on a parlé précédemment, qui est celle de l'Alliance. Cette justice de Dieu inclut la colère de Dieu sur le péché. C'est quelque chose avec lequel moi j'ai du mal à comprendre. D'accord ? Et quand je parlais des anciens et des modernes, les modernes ont tendance à rejeter carrément cette idée-là. D'accord ? Le fait que Dieu soit en colère contre les hommes et que finalement les hommes doivent être punis pour leurs péchés. C'est une notion qui est rejetée par une partie de la théologie moderne. Et j'ai envie de dire que moi, je suis aussi tenté de faire ça. Parce que, alors, ok, on a tous notre chemin de vie. Moi, je suis père de quatre garçons, et progressivement, dans ma vie, dans la façon dont j'éduque mes enfants, cette idée de punition a pris de moins en moins, finalement, de moins en moins d'importance. Et donc, et je me dis, mais pourquoi est-ce que Dieu a besoin de punir le pécheur? Dans la justice humaine, la punition, son sens, c'est d'abord la dissuasion. D'accord ? S'il n'y avait pas de punition, eh bien, pas de conséquences au mal accompli, il n'y aurait pas de limite. Donc, pour que nous arrivions à vivre ensemble, il faut qu'il y ait une crainte de la punition qui fait que, eh bien, on ne viole pas la loi, parce que sinon, on est puni. On comprend ça, hein, enfin, j'ai envie de dire un peu, on le comprend intellectuellement, hein, c'est notre vivre ensemble, notre société qui doit mettre en place ce genre de choses. Mais pourquoi est-ce que Dieu a besoin de faire ça? C'est pas de la dissuasion, parce que si c'était de la dissuasion, force est de constater que ça marche pas très bien. D'accord? La punition que Dieu promet au péché, manifestement, ça n'empêche pas les hommes de pécher. Donc, c'est pas une question de dissuasion. Et alors, je vous disais qu'à un moment donné, on est obligé d'accepter sans vraiment comprendre. Et alors, moi, en tout cas, pour moi, j'en suis là dans cette relation à la colère de Dieu sur le péché et sur la punition qui est promis au péché. J'en suis là, et alors ma relation à la parole de Dieu fait que même si je comprends pas, je vais l'accepter. On a lu une parabole, donc l'explication d'une parabole ce matin où Jésus parle de cette punition, de ses pleurs et de ses grincements de dents, sur ce jugement et cette condamnation du péché. On avait parlé du jugement la fois précédente, mais là on aborde le problème de la condamnation. Le péché, le pécheur qui n'est pas justifié est condamné. Il subit la punition méritée par ses transgressions. Donc, on a parlé du péché comme une rupture de la relation. Le péché, c'est aussi une offense à Dieu. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. C'est l'identité de Dieu se manifeste à travers cette justice-là. Et l'identité de l'homme aussi. Nous sommes condamnés pour notre péché si le sang de Christ ne vient pas l'effacer. Dieu tient le compte de nos fautes. Et ce compte n'est effacé qu'en Christ. Dieu ne tient pas compte de nos fautes à cause de Christ. Je vous avais dit la semaine dernière, enfin il y a une quinzaine de jours, que pour moi, effectivement, cette idée de jugement, c'était aussi une idée qui permettait de donner du sens à notre vie. Je pense que la condamnation en fait aussi partie. La condamnation de ce péché, ça montre la valeur de notre vie. Ça montre que ce que nous faisons ici, ou ce que nous ne faisons pas, a une valeur aux yeux de Dieu. C'est lui qui est la mesure de cette valeur-là. Ce que nous transgressons, Dieu le mesure Dieu le pèse. Ce n'est pas quelque chose qui s'échappe dans l'air, comme une fumée. Dieu en tient compte, Dieu s'en rappelle. Et le fait que cette dette-là soit effacée, eh bien, vient à un grand prix, au prix de la mort de Christ, de la mort de Dieu lui-même, qui paye pour que cette justice de Dieu puisse être accomplie. Et c'est ce que nous dit ce texte. Dieu est juste. Même quand les péchés sont impunis, parce que c'est Christ qui paye le prix. C'est une folie pour beaucoup. Donc je l'ai dit, une folie pour les juifs, une folie pour les musulmans, une folie pour le monde. Et c'est ce qui nous donne la paix. La paix avec Dieu, mais aussi la paix avec les autres hommes. Parce que si notre péché, la souffrance que nous avons causée, Dieu l'efface, alors nous ne pouvons plus réclamer le prix de la souffrance que les autres nous ont causée. C'est tout le sens des paraboles sur le pardon, de l'enseignement sur le pardon. Cette souffrance, ce mal, c'est Dieu qui en a pris la mesure, c'est Dieu qui en a tenu compte, et c'est Dieu qui l'a effacé. Il l'a fait pour nous. S'il l'a fait pour nous, alors, eh bien, nous ne sommes plus en mesure de le réclamer aux autres. Alors, je vais m'arrêter là, simplement en rappelant donc ce verset qui nous dit il n'y a plus de raison de se vanter. Cette idée même est exclue. Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, c'est celui de la foi. Donc nous sommes libérés de la condamnation, libérés du poids de devoir mériter notre salut. Nous sommes libérés, délivrés, j'ai l'impression de chanter Notre-Dame de... Bon. Nous sommes, oui, libérés de notre égocentrisme, d'accord ? Comme l'idée alors je ne sais même plus comment on appelait ça, donc le térocentrisme. Libérés donc de ce monde qui tourne autour de nous, dans cet égocentrisme, nous étions seuls parce que centrés sur nous-mêmes, eh bien nous sommes libérés aussi de cette solitude, parce que nous retrouvons cette glorieuse présence de Dieu. C'est ça qui nous est donné, cette glorieuse présence de Dieu aujourd'hui. Et pour moi, ce texte-là, voilà, m'encourage à en profiter, m'encourage à la rechercher, cette présence, parce que nous en étions privés, elle nous a été rendue en Christ. Comment est-ce qu'on arrive vraiment à comprendre et à mesurer ce que ça représente ? Nous étions faits pour ça. Nous étions faits pour cette relation, pour vivre cette présence puissante de Dieu à, avec nous. Nous étions faits pour ça. Nous l'avions perdu. Ça nous a été rendu. Et je pense que, en tout cas, quand je regarde dans ma vie, je me rends compte que je la recherche pas assez, que je mesure pas en fait la valeur que ça a. Donc, je vous propose d'essayer de rechercher davantage cette présence de Dieu dans nos vies.